VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 25 mai 2016. Au sommaire ce soir...
Affaire de corruption au Libéria, le chef du parti au pouvoir, Varney Sherman, a été arrêté.
Ouverture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie après plus de 3 mois de blocage.
République démocratique du Congo, interdiction de protester demain dans les rues de Lubumbashi et Goma. 3 opposants ont été arrêtés à Goma, mais la manifestation est autorisée à Kinshasa, la capitale.
Immigration vers l'Europe, plus de 5000 migrants ont été secourus au large de la Libye, rien que ces dernières 48 heures.
Rencontre entre Barack Obama et le Premier ministre Shinzo Abe à la veille d'un sommet du G7 au Japon.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Après plus de 3 mois de blocus, la frontière sénégalo-gambienne a été rouverte au transport routier. Claire Morin-Gibourg.
Les transporteurs sénégalais ont eu gain de cause. Depuis le 15 février dernier, ils avaient bloqué la frontière suite à la hausse du prix à payer par les camions pour traverser la Gambie. Les chauffeurs devaient débourser 400 000 francs CFA contre 4 000 auparavant. Les transporteurs réclamaient aussi la construction d'un pont sur le fleuve Gambie. Là aussi, Banjul a cédé. Les véhicules traversent normalement la frontière depuis hier mardi. Tous les 6 postes frontaliers avec la Gambie ont été rouverts, a déclaré à l'AFP Pape Sédou Dianko, un responsable des transporteurs sénégalais à Karang, localité frontalière de la Gambie. Une situation qui soulage les professionnels du secteur. Le blocus obligeait les chauffeurs sénégalais à faire un détour à l'est de plus de 500 km pour contourner la Gambie et relier la Casamance.
Le chef du parti au pouvoir au Libéria et ancien avocat de la compagnie minière Sable Mining, Varney Sherman, a été arrêté aujourd'hui dans le cadre d'une enquête sur une affaire de corruption présumée. Cette arrestation intervient après la publication par l'ONG britannique Global Witness d'un rapport qui dénonce la corruption pratiquée par la compagnie afin d'obtenir ou de sécuriser des permis au Libéria et en Guinée. Les précisions de John Lindon.
Monsieur Varney Sherman a été arrêté ce matin à son domicile, selon une source de sécurité qui a gardé l'anonymat. Il a réfuté toute malversation dans cette affaire, reconnaissant avoir effectué des paiements pour Sable Mining en sa qualité d'avocat, couvert selon lui par le secret professionnel. Il s'est dit prêt à coopérer avec l'enquête, mais pas avec la commission spéciale mise en place par la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Sable Mining a dénoncé des allégations inexactes et infondées dans le rapport de Global Witness, établi selon cette compagnie sur la base des discussions non corroborées avec 3 anciens associés dont le témoignage n'est pas fiable. Global Witness accuse Sable Mining d'avoir payé près de 960 000 dollars à plusieurs responsables libériens ou à leurs proches entre 2010 et 2012 pour obtenir des permis dans le secteur des mines. Le président de l'Assemblée nationale, Alex Tyler, cité dans ce rapport, a récemment démissionné du parti au pouvoir.
Libéria toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU a levé les dernières sanctions qui pesaient sur le pays 13 ans après la fin de la guerre civile. Elles visaient notamment le trafic de ressources naturelles, de diamants, bois ou le gel des avoirs de certains individus.
République démocratique du Congo, le célèbre chirurgien Denis Mukwege dénonce l'augmentation des violences sexuelles contre les enfants, des crimes parfois commis contre des bébés et en dehors des zones de conflit.
Lutte contre le djihadisme au Kenya. La police dit avoir interpellé 2 hommes soupçonnés d'appartenir au groupe État islamique. Des attaques à l'explosif auraient ainsi été déjouées. L'organisation terroriste chercherait à s'établir au Kenya, d'après la police, dans un communiqué. La police indique que les 2 hommes se seraient radicalisés en fréquentant une mosquée d'un bidonville de Nairobi.
Manifestation au Zimbabwe. Plusieurs milliers de sympathisants du président Robert Mugabe ont défilé dans les rues de Harare, la capitale, pour témoigner leur soutien à leurs dirigeants. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Le camarade Mugabe n'est pas malade, les gens mentent, ont notamment chanté les jeunes manifestants.
Sachez aussi que la première chaîne gabonaise d'information en continu, Gabon 24, a été lancée hier soir à Libreville.
La chanteuse camerounaise Anne-Marie Nzié est décédée. Surnommée la voix d'or du Cameroun, elle s'est éteinte à Yaoundé à 84 ans après plus de 60 ans de carrière. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la radio d'État.
Encore un naufrage de migrants en Méditerranée au large des côtes libyennes. Au moins 7 personnes sont mortes et la marine italienne a pu sauver plus de 550 candidats au départ clandestin vers l'Europe. Maëlys Hegel.
Le bilan, encore provisoire, pourrait s'alourdir. Les opérations de secours se poursuivaient encore à la mi-journée. Dans un premier communiqué, la marine avait évoqué 7 corps récupérés et environ 500 personnes secourues. C'est mercredi matin qu'un patrouilleur de la marine a repéré au large des côtes libyennes une barque qui naviguait de manière précaire, avec de nombreuses personnes à bord. L'embarcation a chaviré, le navire Bettika a lancé immédiatement des canots de sauvetage et des gilets aux personnes tombées à l'eau. Des hélicoptères ont également porté secours. En 48 heures seulement, au moins 5500 personnes ont été secourues au large de la Libye. Depuis le début de l'année, quelques 40 000 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes et 1370 migrants et réfugiés ont perdu la vie en Méditerranée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain Barack Obama est au Japon.
Oui, il a exprimé ses profonds regrets après la mort suspecte d'une jeune japonaise dans laquelle serait impliqué un ex-marine américain. Et c'était lors d'un point de presse aujourd'hui à l'issue d'un entretien bilatéral avec le premier ministre japonais Shinzo Abe à la veille du sommet du G7 au Japon. Jacques Aristide.
Le chef du gouvernement japonais a indiqué avoir fait part des vives protestations de son pays au cours de son tête-à-tête avec le président Obama. La semaine dernière, un ancien marine américain soupçonné d'avoir violé et tué une japonaise de 20 ans a été arrêté par la police d'Okinawa, île qui abrite une grande partie des militaires américains au Japon. Ce fait divers, après d'autres de même nature dans la région, ravive les tensions entre l'armée américaine et les habitants. Barack Obama a assuré Tokyo de la coopération totale de Washington dans le cadre légal japonais. Mais il a également été question du sommet du G7 qui se tient jeudi et vendredi à Iseshima, petite localité côtière du Japon, un sommet dédié en particulier aux défis de la croissance mondiale, du terrorisme et des migrations.
Les talibans afghans ont nommé ce mercredi à leur tête un érudit en religion, le mollah Haybatullah Akhundzada. Ce choix intervient à l'issue d'une choura, donc un conseil central de 3 jours, convoqué dès le lendemain de la mort du mollah Akhtar Mansour, tué dans un tir de drone américain samedi au Pakistan. L'agence France-Presse relève que la désignation rapide du successeur de Mansour est destinée à prévenir le morcellement du mouvement taliban. Par ailleurs, un attentat suicide revendiqué par les talibans a tué 11 personnes aujourd'hui près de Kaboul.
En Israël, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman appelé au gouvernement israélien en qualité de ministre de la Défense a remis dans l'actualité la peine de mort pour les auteurs palestiniens d'attentats anti-israélien. Monsieur Lieberman a obtenu que ce point figure dans l'accord conclu avec le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour entrer dans son gouvernement. Les peines capitales prononcées par les tribunaux militaires israéliens ne le seront plus à l'unanimité des 3 juges, mais à la majorité, dit l'accord.
Le Fonds monétaire international n'est pas prêt, en l'état, à participer au renflouement de la Grèce aux côtés des Européens et attend encore des engagements concrets sur les réformes et l'allègement de la dette, a indiqué aujourd'hui un haut responsable de l'institution. « Je crois que nous pourrons y parvenir d'ici la fin de l'année », a déclaré ce responsable au lendemain d'un accord débloquant une nouvelle tranche de prêts européens pour la Grèce.
Un audit de l'administration américaine a condamné aujourd'hui l'usage par Hillary Clinton, du temps où elle était secrétaire d'État, d'un serveur et d'une messagerie privée pour gérer ses emails. Une affaire qui empoisonne la campagne de la candidate démocrate à la présidentielle. La candidate démocrate à la présidentielle maintient qu'aucun de ses courriels n'était classifié lorsqu'elle les avait envoyés depuis sa messagerie privée. L'utilisation d'un compte privé à des fins professionnelles, bannie par les règles de l'administration américaine, lui vaut d'être vivement critiquée par ses adversaires républicains qui lui reprochent d'avoir mis en péril la sécurité nationale en n'utilisant pas les serveurs officiels sécurisés. Ils estiment également qu'elle a voulu cacher illégalement certaines choses en ne se servant pas des emails officiels.
De nouvelles manifestations anti-Trump ont émaillé un rassemblement dans le Nouveau-Mexique. Le candidat à l'investiture républicaine s'y trouvait, tandis que Bernie Sanders entendait contester jusqu'au bout de son côté la favorite du camp démocrate Hillary Clinton. Les trois prétendants à la Maison-Blanche se retrouvaient aujourd'hui en Californie, dans l'ouest du pays, où se tiendront les dernières primaires le 7 juin, ainsi que dans quatre autres États. Donald Trump et Hillary Clinton franchiront la barre des délégués nécessaires à l'investiture de leur parti pour la présidentielle du 8 novembre. L'homme d'affaires, désormais seul en lice, a remporté hier mardi la primaire de l'État de Washington dans le nord-ouest des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Nous passons maintenant à la page économique. Un coup d'œil sur ce qui se passe en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec John Linden.
750 millions de dollars, c'est la somme que vient de lever Afrim Bank. L'institution financière a émis une obligation après avoir reçu des ordres d'achat d'une valeur cumulée de 3,4 milliards de dollars de la part de 290 investisseurs, rapporte Jeune Afrique. Il s'agit d'une obligation d'une maturité de 5 ans, rémunérée au taux de 4 %. Au Cameroun, les travaux d'aménagement de la plage de Ngoye à Kribi, d'un coût total de 4 milliards, ont débuté. C'est l'entreprise chinoise Tianyang Construction Group qui est chargée de l'exécution de la première phase sur une durée d'environ 8 mois et demi et qui coûtera 2,667 milliards de francs CFA. D'après le secrétaire général de la communauté urbaine de Kribi, Jacob Medjo Asako, la plage moderne de Ngoye à Kribi fonctionnera 24 heures sur 24 et offrira plusieurs emplois aux jeunes. Aux États-Unis, les prêts sur salaire dans le collimateur des régulateurs. Pour boucler leur fin de mois, des millions d'Américains ont recours aux prêts sur salaire au taux prohibitif. Pour la première fois, le gouvernement américain entend encadrer au niveau fédéral l'offre de ces microcrédits coûteux qui ont des effets dévastateurs sur les finances des ménages. Une proposition de régulation pourrait être rendue publique dès le 2 juin prochain.
On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
En Guinée, un sélectionneur intérimaire, mais plus d'amical face au Ghana.
Lapé Bangoura, par ailleurs chargé de l'équipe nationale A', a été nommé sélectionneur intérimaire du Sili National après le départ, vous le savez, de Luis Fernandez. L'amical face au Ghana, prévu samedi à Amiens, a en revanche été annulé. Déjà passé sur le banc de la sélection en 2009, celui qui est aussi le sélectionneur des locaux et les avait dirigés avec brio lors du CHAN 2016, conservera le staff en place. Je vous rappelle que le Sili National a 3 points du Zimbabwe en tête de son groupe des qualifications pour la CAN 2017. La Guinée qui jouera face au Swaziland, ce sera le 5 juin prochain lors de l'avant-dernière journée de ces éliminatoires.
Finale de la Ligue des Champions, de bonnes nouvelles pour Cristiano Ronaldo.
Victime mardi d'un coup à la cuisse gauche, le Portugais s'est entraîné aujourd'hui normalement avec le reste du groupe du Real Madrid. CR7 qui devrait donc pouvoir tenir sa place samedi en finale de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec 16 buts et meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, 94 buts. Ronaldo a donc l'opportunité samedi d'égaler son propre record de buts inscrits sur une même édition, soit 17 buts. Je vous rappelle, Morgan, que le Real Madrid, déjà au sommet du palmarès de cette Ligue des Champions, aura l'occasion ce samedi à Milan de remporter une 11e C1.
Roland Garros, le tenant du titre, se qualifie encore laborieusement.
Stan Wawrinka, tête de série numéro 3, a bataillé pour écarter le japonais Taro Daniel, 93e joueur mondial. Le score 3-7, 7-6, 6-3, 6-4. Le Suisse accède au 3e tour de Roland Garros. Le tenant du titre a notamment sauvé 2 balles de 7 dans le jeu décisif de la première manche. Affaire à suivre.
Et puis, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le champion NBA en titre est grand favori à sa propre succession. Golden State est tout simplement au bord de l'élimination dans la finale de la conférence ouest des playoffs. Après une nouvelle déroute la nuit dernière à Oklahoma City, 118 à 94 pour le Thunder. Oklahoma City qui mène 3 victoires à 1 et qui peut donc décrocher son billet pour la finale. Ce sera jeudi en cas de succès à Oakland ou samedi lors du 6e match qui aura lieu à nouveau dans sa salle.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guiriec et Chérubin Gaby-Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour, au premier escale, la République démocratique du Congo.
Oui, pour parler de la grande manifestation prévue demain par trois partis de l'opposition et la société civile. Alors que le rassemblement est autorisé à Kinshasa, la capitale, il est interdit à Lubumbashi et à Goma, dans l'est du pays. On signale même l'arrestation de trois cadres de l'opposition dans la mi-journée à Goma, deux de l'UNC de Vital Kamerhe et un autre de l'ECID de Martin Fayulu. Ces manifestations visent à protester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir au-delà de son mandat, au cas où les élections seraient reportées. À noter que son deuxième mandat prend fin en novembre. De Goma, la correspondance de Charlie Kasereka.
Pour interdire la marche au Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku a fait savoir que ces trois plateformes qu'il organise sont illégales en RDC.
Le ministre de l'Intérieur qui a été consulté a dit que ni les G7, ni les Front Citoyens, ni la Dynamique ne sont pas légalement constitués. Ce sont des structures qui sont dans les pensées des gens. Et comme gouverneur, j'insiste maintenant pour dire, pour élargir cette interdiction sur l'ensemble de la province du Nord Kivu.
Les membres de ces plateformes en province n'ont pas tardé à réagir aux propos du gouverneur. Ici, Maître Lumbulumbu, cadre du PLD, Parti libéral pour le développement, un parti politique regroupé au sein de la dynamique de l'opposition en province.
Mais monsieur le gouverneur, c'est très, très bien que la dynamique de l'opposition est constituée par des partis politiques qui sont légalement reconnus en République démocratique du Congo. C'est tout juste une alibi. Évidemment, vous allez constater que nos autorités sont devenues presque paranoïaques. Il suffit qu'il y ait une annonce d'une marche ou une activité de l'opposition politique. L'attitude est la même, ce sont des interdictions.
Feu vert à Kinshasa pour la manifestation Interdiction Nord Kivu. Jean-Paul, membre de la plateforme Front Citoyen, qualifie de cela d'une confusion.
Moi, je ne comprends pas pourquoi au Nord Kivu, les gouverneurs interdisent la manifestation alors qu'à Kinshasa, les gouverneurs ont autorisé la manifestation. Nous allons descendre dans la rue pour accompagner nos collègues de Kinshasa qui sont autorisés à descendre dans la rue.
Rappelons que ces différents partis de l'opposition conteste l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant les maintiens en fonction de l'actuel chef de l'État jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Et nous partons maintenant au Tchad. La coordination de la plateforme Front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité a publié son mémorandum lors d'une rencontre ce matin. Une telle réunion avait pourtant été interdite hier par le ministre en charge de la sécurité publique. Le mémorandum porte sur l'élection présidentielle du 10 avril et la situation politique au Tchad. Le point avec André Kodmajingar, N'Djamena.
C'est un document de 15 pages qui relève les irrégularités constatées avant, pendant et après le scrutin du 10 avril dernier. Pour cette coordination de 13 partis politiques qui soutiennent le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, cette consultation électorale est tout sauf une élection. Il menace de ne pas reconnaître les institutions qui seront mises en place après le 8 août, date d'investiture du président Déby pour son nouveau quinquennat et soutiennent la mise en place d'un gouvernement de salut national. Mahamat Bar Béchir est le coordonnateur national de cette plateforme.
Les partis politiques membres des forces saluent l'initiative de la mise en place du gouvernement du salut public et entendent participer efficacement à sa promotion et sa reconnaissance par les Tchadiens et la communauté internationale. Se réserve le droit de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et de collaborer avec la Cour pénale internationale sur les cas de violation des libertés, des crimes politiques et économiques jusqu'à là impunis.
La coordination exige également la dissolution de l'Assemblée.
L'Assemblée nationale ne joue plus son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en tant que pouvoir indépendant et séparé de l'exécutif. Elle doit disparaître et un parlement de transition doit être mis en place immédiatement pour contrôler les actions du gouvernement de Sali Public.
Rentré d'une mission de sensibilisation de leurs militants à l'intérieur du pays, trois des six candidats malheureux qui rejettent la victoire de Déby au premier tour étaient présents à cette rencontre. Pour Saleh Kebzabo, cette élection n'a pas encore dit son dernier mot.
Ces résultats-là, nous les résulterons toujours jusqu'à ce que la vérité soit acceptée et rétablie. Idriss Déby Itno est quatrième dans cette élection avec 10,1%.
30%, pas plus. À quelque prix que ce soit, ce défi, on va le relever. Déby va avoir une fin de quinquennat, un quinquennat pourri.
Les ennemis du changement sont les réseaux de chefs traditionnels et les agents de l'ANS que le pouvoir utilise contre l'opposition avec des espèces sonnantes, a déclaré Joseph Djimlangar Dadnadi. Gali Katangote revient sur l'interdiction de la publication de ce mémorandum hier mardi par les autorités en charge de la sécurité publique.
Nous prenons date à partir d'hier de ce que le ministre de la Sécurité publique a fait pour dire que dans les jours à venir, toute tentative d'interdiction d'une réunion légale nous amène à une bataille dans la rue. La prison, c'est fait pour des hommes. On ira tous en prison en défendant nos droits. La peur doit sortir de notre tête.
Avec la publication de ce document, c'est un véritable bras de fer entre le pouvoir et l'opposition qui s'annonce. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Retour sur le premier sommet humanitaire mondial organisé sous l'égide des Nations Unies en Turquie en début de semaine. Deux jours de travail avec pour objectif de mobiliser les États et réorganiser le fonctionnement de l'humanitaire. Ban Ki-moon a promis des actions et des engagements concrets alors que certaines ONG restent sceptiques. Alors que ressort-il de cette initiative? Comment aller au-delà des bonnes intentions et des discours? Comment concilier aide et développement? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
En Inde, Olivier Masonda, 28 ans, originaire de la RDC, a été tué à New Delhi récemment dans un crime raciste. Il était arrivé dans ce pays en 2012 pour poursuivre ses études et était devenu professeur de français dans la capitale indienne. Il tentait de prendre un rickshaw, un tricycle utilisé pour le transport en commun, et trois Indiens voulaient prendre le même véhicule. Ils l'ont encerclé, l'ont tabassé et ont fini par lui fracasser la tête. Sur ce qui s'est passé, Idriss Fall a joint Nyankoroyam Psamake, ambassadeur malien à New Delhi.
Le jeune Congolais s'est fait agresser par des Indiens quand il prenait un véhicule de transport commun. Il avait arrêté ce véhicule et il s'apprêtait à y rentrer quand des jeunes Indiens sont venus prendre le même véhicule. Alors il a essayé de demander des raisons et ils se sont abattus sur lui. Ils l'ont abattu froidement avec de la brique. Une brique forte qu'ils ont ramassée sur le côté, qu'ils ont écrasée sur sa tête. C'était vraiment violent et nous, ambassadeurs des pays africains, nous nous sommes réunis pour condamner avec vigueur, avec la dernière énergie, non seulement cette attaque, mais les multiples attaques à travers l'Inde.
Depuis, est-ce que les auteurs ont été interpellés ou arrêtés?
Selon les autorités indiennes, deux des perpétrateurs ont été arrêtés. L'une des trois personnes est toujours en large. Ils promettent que la justice sera très, très rigide et rigoureuse dans cette affaire.
Qu'est-ce qui s'est passé à Bangalore?
À Bangalore, des étudiants tanzaniens qui ont été impliqués dans un accident de voiture, qui ont écrasé une dame. Et les gens se sont immédiatement rués sur ces étudiants pour se rendre justice eux-mêmes. À travers cela, ils se sont engagés contre tous les étudiants africains. Chaque Africain qu'ils voyaient dans la rue faisait objet d'agression. Ça s'est répété un nombre de fois, non seulement à Bangalore, mais aussi dans d'autres États indiens.
Qu'est-ce qui motive ces attaques?
Nous avons assister à de multiples attaques liées à l'origine, c'est-à-dire les étudiants africains. Et les personnes d'origine africaine sont le plus souvent victimes. Donc nous pensons à des crimes de haine, c'est-à-dire la discrimination contre les Africains. Et nous avons sollicité le concours des autorités indiennes pour qu'ensemble nous puissions informer et sensibiliser le peuple indien pour que il sache que l'aspiration de l'Inde à devenir une puissance ou un leader mondial ne peut pas s'assumer tant que les Indiens eux-mêmes ne sont pas accueillants envers le reste du monde. Le gouvernement indien fait beaucoup d'efforts pour s'engager directement avec l'Afrique, notamment pour l'organisation, le sommet africain, où il y a eu une forte déclaration dont l'esprit et le soutien mutuel et le respect mutuel entre l'Afrique et l'Inde. Pour cela, nous allons nous employer en tant que corps diplomatique africain pour que nous puissions, ensemble avec les médias indiens, façonner et transformer le comportement des Indiens envers les Africains. Nous pensons qu'avec l'implication de tous, nous pourrions faire en sorte que ces crimes soient punis vigoureusement par les autorités indiennes.
Nyankoroye Samake, ambassadeur malien à New Delhi.
This is the voice of America, Washington, Bamboozle, D.C.
En France, la fronde contre la réforme du droit au travail persiste. Blocage de raffineries et dépôts pétroliers, appels tout azimut à la grève dans la fonction publique, les transports jusqu'aux centrales nucléaires. La centrale syndicale a engagé l'épreuve de force contre le projet et joue aujourd'hui son va-tout face au gouvernement socialiste. Le pari est osé et des experts se demandent si la CGT a les moyens de son ambition de mettre le pays à l'arrêt. Pour analyse, Éric Manirakizon, agent à Paris, le directeur de recherche au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po, auteur de l'enquête sociologie des adhérents socialistes, Henri Rey.
Il y a deux grands groupes de syndicats. Il y a les syndicats réformistes qui finalement maintenant sont ralliés à cette loi après avoir obtenu un certain nombre de modifications et d'avantages. Et puis il y a deux syndicats, essentiellement la CGT et Force ouvrière, qui sont très opposés à cette loi et qui sont influents dans des secteurs comme l'énergie, les raffineries, les transports, le contrôle aérien, l'EDF, etc., qui donc ont une implantation dans ces entreprises qui étaient ou qui sont encore des entreprises publiques et qui ont pour propriété de paralyser des secteurs importants de la vie économique. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui les perturbations sont considérables, mais il y a beaucoup d'inquiétudes et déjà des difficultés à se procurer du carburant pour les automobilistes.
Le gouvernement maintient la fermeté, ni retrait ni remise, a dit le Premier ministre Manuel Valls. Qui perd, qui gagne?
C'est difficile pour le gouvernement de revenir véritablement en arrière, dans la mesure où il a déjà fait un certain nombre de concessions, où il s'est engagé auprès des syndicats que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de la CFDT, des syndicats réformistes. Et donc, par rapport à cela, il lui est difficile de perdre la face, il lui est difficile de revenir en arrière. Et donc, il joue plutôt l'usure par rapport à ces mouvements de contestation. Et la difficulté plus, si vous voulez, c'est le fait qu'on a affaire à des secteurs qui sont des secteurs très stratégiques dans la vie économique française. Et évidemment, tout ce qui concerne l'énergie, le courant électrique, la circulation automobile, la circulation des trains, des transports, tout ça, c'est quelque chose qui, même s'il n'y a pas massivement engagement dans un mouvement gréviste, les conséquences sont évidemment extrêmement importantes, ou peuvent être extrêmement importantes.
Il n'existe pas de loi parfaite. Par rapport à d'autres lois sur le travail, est-ce que c'est une loi qui est vraiment rétrograde ?
Alors elle veut le contraire, c'est-à-dire qu'elle se veut moderne. Elle considère que les conditions du code du travail en France sont trop rigides, trop protectrices à l'égard des salariés et handicapent en quelque sorte la volonté des entrepreneurs de recruter, donc les plaçant dans une situation en quelque sorte de carcan juridique. Voilà un peu le soubassement de cette loi qui se veut novatrice. Mais en même temps, il y a une très grande crainte qu'en modifiant les règles existantes, qui n'est pas simplement du conservatisme, mais qu'il y ait une nouvelle donne, un nouveau rapport de force qui se constitue à l'intérieur des entreprises au détriment des salariés.
Henri Rey, joint à Paris.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou de VOA Afrique. Retrouvez-moi la semaine prochaine en direct de Bamako au Mali. Les amis, RM Show sera diffusé en direct. Je serai là en personne avec les amis, les frères et sœurs maliens la semaine prochaine à Bamako. Appelez-nous au 001-202-619-3140 pour participer à l'émission et envoyez-nous vos SMS ou WhatsApp Viber au 001-703-350-3731. Nous serons aussi en direct sur notre page Facebook VOA Afrique. RM Show en direct de Bamako, Mali. La semaine prochaine, ça va être chaud. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition mise en ordre par Georges Léonard Sagno. Il avait à ses côtés le très aimable Jackson Witt. Thank you, sir. À la présentation, Morgane Guériac et Gaby Dorsine.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.